au rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Une émission qui s'inscrit dans le sillage du travail éditorial mené par la revue La Pensée de Midi. Bonjour, bienvenue dans cette émission du mois de juin du rendez-vous de midi sur les ondes de Radio Grenouille. Alors pour cette émission, trois entretiens avec en premier temps littérature, un entretien avec Frédéric Jacques Temple, l'écrivain, homme de lettres, poète et homme de radio également, que nous avons rencontré à Augargues. Dans un deuxième temps, une petite pause musicale avec Guillaume Veillé qui a dirigé une anthologie de la musique traditionnelle en France que nous entendrons donc dans cette deuxième partie. Enfin, dernière partie de l'émission, un entretien avec Nadia Benjilali du magazine Le Courrier de l'Atlas, le magazine du Maghreb en Europe, un entretien réalisé par Gilles Suzanne. Mais tout de suite, nous écoutons Frédéric Jacques Temple avec une lecture d'un de ses poèmes.
Écrit sous un figuier. Loin des loriots furtifs, dérobés par de larges mains vertes, tombe une figue molle dans l'ombre sèche où somnole un hamac. L'odeur lactée de femme allant à la margelle alourdit le serein. La pluie, goutte distincte, mate dans le feuillage, impact d'insectes morts sur la vitre embuée. La pourpre des pavots brasille dans le soir, bruissant de tourterelles. Une clameur transperce le silence de la moiteur qui dégoûte du cèdre. Vigile, à l'orée des étoiles, un œil brûle au fond du hibou.
Donc Frédéric Jacques Temple, bonjour, merci de nous recevoir chez vous à Augargues dans le Gard. Vous êtes poète, écrivain, traducteur, homme de radio, puisque vous avez été le directeur de la radio-télévision française, devenue ORTF et France 3, pour le Languedoc-Roussillon de 1954 à 1986. Et en 2009, vous publiez un ouvrage intitulé « Beaucoup de jours » qui est paru aux éditions Actes Sud, dans lequel vous présentez un journal que vous n'avez pas vraiment tenu. Alors, j'aimerais juste pour introduire, lire les quelques petites lignes que vous avez écrites au début de cet ouvrage. Vous écrivez « Les années, se moquant de l'ordre, se croisent, se rattrapent. À la route droite, je préfère les chemins de traverse. Au journal que je n'ai jamais tenu, les copeaux d'une vie reliée par beaucoup de silence se forciment. » Alors ce journal, cette forme de journal que vous avez repris, puisqu'il fait des allers-retours, on en parlera, vous avez pris pour date repère 1920-2006. Et vous y citez de grandes figures du monde littéraire et artistique. Notamment, j'aimerais revenir avec vous aujourd'hui autour de quelques-unes de ces figures marquantes. Et peut-être pour commencer autour d'Edmond Charlot, que vous avez bien connu et dont nous avons eu un entretien dans l'émission précédente. Un entretien inédit qui datait de 1986. Alors Edmond Charlot était libraire, éditeur algérois, né en 1915 à Alger. Il a disparu en 2004. Et en 2007, vous avez publié chez les éditions Domins un ouvrage « Souvenirs d'Edmond Charlot, des entretiens avec celui qui est présenté sur le site de cet éditeur comme l'éclaireur de la civilisation méditerranéenne ». Alors Frédéric Jacques Temple, que pensez-vous de cette appellation et quels sont ses souvenirs d'Edmond Charlot ?
Alors j'ai rencontré effectivement Edmond Charlot à Alger en 1942. Je ne le connaissais pas, je savais seulement qu'il était éditeur parce qu'il avait publié des petits opuscules de journaux en particulier, le Rondeur des jours, Manosque des plateaux. Et c'est Michel Sefort, le biographe de Mondrian, qui m'avait dit « Mais vous partez à Alger, il faut que vous rencontriez Max-Paul Fouché ». Ce que j'ai fait immédiatement, quand j'y suis arrivé, je suis allé voir Max-Paul Fouché dans, tout à fait sur les hauteurs d'Alger. Il m'a reçu un peu avec l'onction traditionnelle des cardinaux recevant des séminaristes. Je lirai vos poèmes, etc. Bon. Il m'a dit, mais il faudrait que vous connaissiez de Montcharlot, qui est un libraire, éditeur à Alger. Ce que j'ai fait immédiatement chez Charlot, qui m'a reçu très aimablement. Et c'est là que j'ai compris et connu que Charlot était un personnage très important, puisqu'il avait été le premier éditeur de Camus, sous l'égide de Jean Grenier, qui était professeur à Alger, et qui avait... en quelque sorte promu Camus en essayant de le publier. Et effectivement, Charlot a publié le premier livre de Camus, L'envers et l'endroit, et puis ensuite Noce, que moi j'estime énormément. Je pense que s'il y avait un livre à sauver de toute l'œuvre de Camus, c'est Noce que je prendrais. Et voilà, alors donc on a sympathisé, et puis malheureusement... ça a été très bref parce que je suis parti ensuite faire la guerre en Tunisie, puis en Italie, et puis bon. Et donc, c'était une première rencontre avec Charlot. Quand j'étais sur le front italien, je lui envoyais des poèmes. Et lorsque j'ai été démobilisé en 1946, j'ai eu la surprise de recevoir une plaquette avec tous mes poèmes aux éditions Charlot. Donc, il a été mon premier éditeur, en quelque sorte. Voilà, et ensuite, je l'ai perdu de vue. Il a fait une carrière, pas diplomatique, mais enfin, il a été directeur de l'Alliance française, l'Institut français à Tanger, puis à Izmir, etc. Et un jour, on me dit, mais il y a une lecture de poèmes à faire à Pézenas, il y a un nouvel éditeur qui est là, un libraire, et j'arrive à Pézenas avec mes poèmes, et puis je tombe sur Charlot, que je n'avais pas revu depuis des années. Donc ça a été de nouveau une deuxième rencontre avec Charlot. Autrement dit, l'axe Alger-Pézenas était construit. Et pour moi, les deux villes n'en font plus qu'une maintenant, parce qu'il a été libraire à Alger avec son librairie des vraies richesses, et il a été libraire à Pézenas avec le haut quartier. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que je suis arrivé à Alger il n'y a pas longtemps. La première fois que je suis allé, c'était pour aller voir les vraies richesses, ce qu'il en restait, rue Charras. Et j'ai été étonné de voir que le titre restait, la librairie des vraies richesses, et qu'il y avait à l'intérieur du magasin, que j'ai reconnu tout de suite, très exigu, avec un petit escalier, il y avait un grand portrait de Charlot. Donc, il est resté présent là-bas, et voilà. Alors Charlot, ben, c'était un homme merveilleux, extrêmement discret, très humble, trop même parce que ça lui a joué des tours. Quand il a voulu transporter sa maison d'édition à Paris en 1946-1947, il s'est heurté finalement à toute une, je dirais pas une mafia, mais enfin une coalition d'éditeurs parisiens qui revenaient de loin d'ailleurs, parce que certains avaient collaboré. Et qui ne pouvait pas supporter qu'un jeune éditeur de surcroît algérois puisse remporter des prix. Je crois que c'est avec Henri Bosco, le Mastéotime, que Charlot a eu le prix Femina ou le prix Renaudot. Il a eu d'autres prix avec Emmanuel Robles. Il commençait à cumuler les prix et ça ne pouvait pas le supporter. Pour moi, Charlot est un personnage fondamental de la vie de ma jeunesse, et puis ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant, jusqu'à sa mort.
Il a créé une collection chez Domas, La Méditerranée vivante. Dans l'entretien que nous avions la semaine dernière, il disait que son rêve, donc ça datait de 86, ce serait de créer une collection des grands auteurs de la Méditerranée. Donc c'était un tout petit peu différent peut-être, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur cette collection ?
Alors, Méditerranée vivante, c'était déjà un titre d'une collection qu'il avait à Alger. Donc, il y a une continuité, si vous voulez, dans l'intention de promouvoir la pensée méditerranéenne à la suite d'auteurs comme Gabriel Odizio, en particulier, Louis Broquier, Marcel Sauvage, Robles, Fréminville, tous ces auteurs algériens ou algérois qui ensuite sont devenus des auteurs, j'allais dire métropolitains, c'était le terme de l'époque, mais des auteurs français à part entière maintenant. Alors, Méditerranée vivante, ça a été repris, effectivement, aux éditions d'Aumas. C'est Charlot qui a voulu, continuer un petit peu l'action qu'il avait menée à Alger. Et dans cette collection figurent des personnes qui l'avaient connu là-bas et qui ont quelque chose à dire sur ce passé algérien. Et, ben, je pense en particulier à Louis Bédisti, le peintre, à Jean de Maisonseul, l'architecte urbaniste, Blanche Balin, qui faisait partie du premier catalogue de Charlot, et d'autres encore, et la collection continue maintenant.
Dans votre ouvrage « Beaucoup de jours », lorsque vous expliquez justement que Charlot était votre premier éditeur, vous dites qu'une fois la publication parue, Jean Sénac, qui tenait alors une revue, avait qualifié votre travail comme appartenant à une peut-être une école d'Alger. Alors, est-ce que là aussi, vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce que vous pensez qu'il y a des écoles en Méditerranée, dans la poésie? Vous qui êtes à la fois poète et aussi un grand spécialiste de la poésie, je rappelle d'ailleurs qu'une de vos premières émissions radiophoniques, comme vous le dites dans beaucoup de jours, s'appelait « Poèmes du monde ».
Alors, je me souviens effectivement avoir rencontré Jean Sénac au siège de la revue Afrique à Alger, qui était dirigé par Robert Rando, qui avait été le biographe d'Isabelle Eberhardt, Jean Pommier, Alfred Rousse, tous algérianistes convaincus. Et effectivement, on parlait de l'école d'Alger. Je crois même que c'est Gabriel Odizio qui avait parlé de ça. Mais ça ne tenait pas debout, enfin, il n'y a pas eu d'école d'Alger. Alors Jean Sénac, effectivement, que j'avais rencontré là aussi, a écrit dans une revue qui s'appelait Méditerranée précisément, un article sur la jeune poésie algéroise, et il me citait parmi les poètes algérois. Alors moi je n'étais pas algérois bien sûr, mais enfin de cœur je l'étais bien sûr, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y avait une école d'Alger. Je crois que ça a été réfuté ensuite par Odizio lui-même, disant qu'il n'y avait pas une école d'Alger, qu'il y avait peut-être une pensée méditerranéenne, mais pas du tout d'école algéroise ou algérienne.
Vous venez de me montrer d'ailleurs un programme où on vous cite, on vous présente en tant que poète américain. Donc finalement, vous êtes un poète universel.
Oui, c'est un poète américain, c'est Jean Carrière qui m'a dédié son épervier de Maheu, et qui m'a appelé poète américain parce que, précisément, je me suis intéressé assez vite à la poésie américaine, à la littérature américaine. Mais bon, c'est une boutade, en quelque sorte, et peut-être parce que aussi ma poésie présente un aspect assez peu français, si vous voulez, dans ce sens que je m'intéresse à la nature, peu à la psychologie, moins à la philosophie, davantage à la vie immédiate. Enfin, je veux dire par là que, pour moi, écrire, c'est une des formes de vivre. Je ne peux pas écrire si je n'ai pas vécu d'abord. Il faut engranger et ensuite moudre le grain pour pouvoir écrire de la poésie, et non pas s'enfermer dans un laboratoire. Donc il y avait le grand air américain, si vous voulez, qui a permis à Carrière de dire que j'étais un poète américain.
Un poète peut-être algérois ou américain, et poète de Languedoc. Vous qui connaissez cette langue qu'il a parlé, vous avez été l'ami de grands poètes, je pense notamment à Yves Rouquette, que vous qualifiez dans beaucoup de jours de turbulent poète occitan, ou de Max Roquette, que vous présentez comme un ami sans faille pendant 50 ans. Alors peut-être quelques mots sur ces deux figures, et puis sur cette poésie de Languedoc qui vous est proche et en même temps peut-être pas si proche que ça, et dont vous avez préfacé aussi un ouvrage qui s'appelle « Poète de Languedoc, vagabondage ».
Bien, je suis occitan. Moi, je prétends être occitan de langue française. Parce que malheureusement, mon père le parlait, mon grand-père le parlait. Moi, j'ai été éduqué dans un collège où on châtillait les accents. et je n'ai pas pu apprendre la langue comme je l'aurais voulu. Alors, comme disait Montaigne, je suis homme nécessairement, mais je ne suis français que par hasard. C'est les hasards de l'histoire. Et je me sens évidemment de ce terroir. Et c'est pas parce que je me sens de ce terroir que je suis mobilisé et immobilisé dans ce terroir. Pour moi, je pense que le fait d'être occitan, c'est aussi pratiquer l'ouverture. Comme l'Occitanie de l'époque pratiquait l'ouverture vers les pays arabes ou les pays palestiniens, tout le Maghreb, toute la grande Méditerranée. Je crois que c'est l'ouverture sur le monde. Autrefois, le monde, c'était la Méditerranée. Maintenant, c'est l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, la Chine. Je crois que dans la mesure où on est de quelque part, on peut précisément plus facilement s'ouvrir sur le reste du monde. Et non pas pratiquer une espèce d'uniformisation, en quelque sorte. Il faut garder son esprit du lieu, enfin être toujours présent dans son terroir. L'uniformisation, il y a uniforme. Et dans l'uniforme, il y a le pas cadencé. Quelquefois, le pas de loi. Alors, tous mes amis occitans, ce sont des écrivains que j'apprécie beaucoup et que je considère comme à l'égal des autres écrivains français. Ils ont écrit occitan et puis s'ils avaient écrit italien ou espagnol, ils seraient beaucoup plus connus, c'est sûr. C'est ça le problème. Je sais que pendant très longtemps, je pense à Hiroquette, un certain nombre de ses amis, ils ont refusé d'être traduits en français. Ils sont enfermés dans une espèce d'orgueil. Ça, je crois que ça leur a porté tort à une certaine époque. Puis finalement, le premier à être traduit en français, c'était Max Rouquette avec ses Vers paradis, qui sont d'admirables récits, dignes de n'importe quelle littérature étrangère ou française. Et petit à petit, maintenant, les écrivains occitans se font traduire et sont plus ou moins reconnus. Je pense à Yves Rouquette, bien sûr, Max Rouquette, Philippe Gardy, Jean-Claude Forêt. Enfin, moi, je les fréquente assidûment et je suis à l'origine, d'ailleurs, de la renaissance du Pen Club occitan qui a été en sommeil pendant quelques années.
J'avais justement une citation qui nous amenait vers Gabriel Odizio, mais où vous disiez dans Beaucoup de jours, « Max Rouquette m'a entraîné à Avignon où l'on inaugurait le Pen Club de Languedoc. » J'y ai vu Gabriel Odizio en grande conversation avec l'attraction majeure de la journée, Pablo Neruda, monument imposant et majestueux. Encore perclus de timidité à l'époque, je n'ai pu bêtement les aborder.
Oui, effectivement. Quand je suis arrivé à Avignon avec Max, on a aperçu cette espèce de monolithe qui était Neruda, grand, imposant. Et je ne sais pas pourquoi il était venu. Peut-être parce qu'il s'intéressait à la langue d'oc, c'est très possible. En tout cas, ça a été vraiment étonnant de le rencontrer et beaucoup d'écrivains occitans étaient un peu étonnés de le voir et même certains ne le reconnaissaient pas. Et je leur dis, mais c'est Neruda, c'est le grand Neruda qui est là et qui est venu honorer de sa présence la création du Pen Club occitan. C'était vraiment très, très émouvant.
Il y avait ce jour-là Gabriel Odizio qui a joué un rôle important dans les Cahiers du Sud. Vous évoquez aussi Thérèse Aubré, poète, traductrice, cofondatrice des Cahiers du Sud, encore Jean Ballard. Ce sont quelques-unes des figures peut-être que vous avez approchées ou côtoyées.
Oui, les Cahiers du Sud, je suis arrivé un peu tard. J'ai publié dans les Cahiers du Sud deux ou trois notices sur des livres, enfin rien de personnel. Et je leur ai envoyé finalement un texte sur les figuiers qu'ils ont beaucoup aimé, mais c'était, je crois, à la fin de je crois que c'était pour le dernier numéro des Cahiers du Sud. Finalement, il n'a pas été publié dans les Cahiers du Sud. Et Ballard l'a passé à Jean Madrieux après, qui a refondé les Cahiers du Sud sur la forme de Sud, la revue Sud. Et je crois que ce texte a paru dans le deuxième numéro de Sud. Donc Ballard, que j'avais rencontré plusieurs fois, était un personnage étonnant. Enfin, je veux dire qu'il voyait la revue comme on ne la voit plus maintenant. Elle était très marseillaise et en même temps très ouverte sur le monde entier. Elle était marseillaise parce qu'il y avait énormément de publicité à l'intérieur. Il y avait la compagnie Paquet, il y avait des tas de. Les cafés Intel, etc. Et c'est ça qui faisait vivre la revue. Et c'était très amusant d'ailleurs. Il y avait une chronique locale, très locale, à côté de textes d'écrivains internationaux. C'était vraiment une revue étonnante. Il y a eu des numéros célèbres comme le génie Doc et l'homme méditerranéen, le grand numéro sur l'islam par Émile d'Hermingham. Et c'était vraiment, je crois que c'est une revue qui a compté dans le monde littéraire français pendant pas mal de temps et dont on se réfère, auquel on se référera de plus en plus. Voilà, alors vous aviez cité Thérèse Aubré. Thérèse Aubré, je ne l'ai pas connue à cause des Cahiers du Sud, je l'ai connue parce que j'ai une amie qui est toujours la femme du poète Jean Joubert, qui s'intéressait à D.H. Lawrence. Et comme j'écrivais la première biographie de Lawrence, qui est parue en France d'ailleurs, en 1958-59, elle a paru en 60 chez Segers, elle m'a mis en relation avec Thérèse Aubré, avec qui elle a été en rapport à cause de Lawrence, parce que Thérèse Aubré avait été la traductrice de pas mal d'œuvres de Lawrence en France. C'est comme ça que je l'ai rencontrée et que j'ai appris après qu'elle avait été à l'origine des Cahiers du Sud. Avec la revue Fortunio. Fortunio était le prototype en quelque sorte des Cahiers du Sud. Un peu comme d'ailleurs la revue Mitra de Charles Autran avait été le prototype de la revue Fontaine de Maxwell Fouché à Alger. Parce que Autran était parti à la guerre, était prisonnier, sa revue Mitra a été reprise par Maxwell Fouché qui en a changé le titre. Donc les Cahiers du Sud aussi ont connu la même transformation. Fortunio, alors, ce qui est curieux, c'est que Fortunio, il y avait Ballard et il y avait aussi Pagnol. Et la revue Le Feu aussi, tout ça, ça mijotait dans le même chaudron et les Cahiers du Sud sont sortis de tout ça.
Vous citez d'ailleurs souvent dans votre livre des noms de revues parce que soit vous y avez participé, vous y avez écrit des textes, commandé parfois des textes, vous les lisez, vous êtes d'ailleurs abonné à La Pensée de Midi aussi. Ce rôle des revues, il vous paraît indispensable, notamment dans le monde de la poésie?
Je pense que la revue est un tremplin. Et en même temps, c'est le reflet de ce qui se fait dans l'immédiat. Je crois que c'est capital. Je crois que ce qui est triste, c'est de voir que beaucoup de revues françaises ont de la peine à survivre. Et je me demande pourquoi, alors qu'autrefois, la revue était quelque chose qui était très suivi. Beaucoup d'auteurs publiaient dans des revues, des livraisons après livraisons, chapitre après chapitre, avant l'édition. Je crois que la revue, c'est quelque chose. C'est un peu le miroir. Quand on crée une revue, c'est un peu soi-même que l'on retrouve à travers non seulement ses propres textes, mais aussi ceux que l'on commande à des amis ou des auteurs qu'on admire. Et je crois que c'est vraiment, vraiment essentiel de promouvoir la revue à tout prix. Il faut dire quand même que les pouvoirs publics se penchent sur ce problème-là beaucoup plus que sur l'édition.
Espérons que vous soyez bien entendu. Alors, vous êtes d'ailleurs en train de créer une nouvelle revue qui est avec des écrivains algérois. Vous pouvez nous la présenter?
Alors, cette nouvelle revue naît, elle porte bien son titre d'ailleurs, elle s'appellera Phénix. Donc, si vous voulez, par elle, renaît la revue Autre Sud, qui était l'héritière de Sud. Laquelle Sud était l'héritière des Cahiers du Sud. Parce que quand Ballard a décidé d'arrêter les Cahiers du Sud, il a passé la main à Jean Malrieux, qui a été le directeur d'une revue qui s'appelait simplement Sud, qui a duré un certain nombre d'années, qui s'est arrêtée il y a une dizaine d'années, je crois. Et ça a été repris ensuite par Yves Broussard, Jacques Lovicky et d'autres encore, sous le titre Autre Sud, qui elle aussi a connu pas mal de déboires qui viennent de se terminer. Et donc, on a décidé de continuer malgré tout. Et on a trouvé là un allié précieux. C'est un éditeur algérois avec qui on avait déjà collaboré pour faire des numéros en commun, qui nous a dit « mais moi je prends ça en charge et on va faire une revue méditerranéenne qui va s'appeler Phénix », qui est un beau titre, qui est très, très méditerranéen, que ce soit très, très grec, très arabe, très enfin, méditerranéen, quoi.
Donc, comme je disais en début de cet entretien, nous sommes ici à Aujargues, dans votre magnifique maison où on trouve des livres dans toutes les pièces. Comment se passe une journée pour vous, poète? Vous écrivez tous les jours? Comment vous vient votre inspiration?
Non, je n'écris pas tous les jours. J'écris quand j'en ai envie ou quand je suis poussé à écrire. L'inspiration, je ne sais pas, j'y crois pas trop à l'inspiration, je crois que c'est plutôt à l'expérience humaine. Je crois que c'est qui disait que l'inspiration, bon, c'est à peine 5%, mais qu'il y a 95% de transpiration, qu'il faut ensuite travailler le texte. Voilà. Bon, c'est peut-être vrai, je crois que c'est vrai d'ailleurs. Alors pour moi, ce qui est important, c'est la vie quotidienne, l'expérience quotidienne. Quelquefois, des amis viennent me trouver en me disant « voilà, on va pêcher le maquereau ». J'abandonne très volontiers la page à écrire pour aller pêcher le maquereau. Mais si je ne vais pas pêcher le maquereau, je ne peux pas en parler. Parce qu'il ne faut écrire que des choses dont on est sûr d'avoir expérimenté dont on peut en retirer une substance, vraiment, quelque chose de véritablement vécu. Je ne crois pas à la littérature de laboratoire. Je crois que pour écrire, il faut engranger. Pour pouvoir faire le pain, il faut moudre le grain qu'on a engrangé. Ben, c'est mon opinion. Comme disait l'autre, je la partage.
Merci beaucoup, Frédéric Jacques-Temple.
Je suis un arbre voyageur. Mes racines sont des amarres. Si le monde est mon océan, en ma terre je fais relâche. Ma tête épanouit ses branches. À mes pieds poussent des ancres. Loin, je suis près des origines. Quand je pars, je ne laisse rien que je ne retrouve au retour.
Quelle odizia su tutto l'oro e la Spagna ora noi la casinca con lo io e la valagna ui nu udimmi acciaro e torrezza la castagna.
Merci encore à Frédéric Jacques-Temple de nous avoir accordé ce bel entretien. Frédéric Jacques-Temple, cet homme de lettres qui a côtoyé, outre les figures importantes du monde littéraire que nous avons évoquées avec lui, de grands écrivains et poètes tels que Henri Miller, Blaise Cendrars ou encore Jean Carrière. Cet entretien s'est terminé par une lecture de l'auteur de son poème « Arbre » issu du recueil « La chasse infinie » paru aux éditions Granit en 1995. Nous avions écouté également, en début de cet entretien, un autre poème issu de ce même recueil et qui s'intitule « Figuier ». Je signale à tous ceux qui auront la chance d'être à Montpellier le 9 juin prochain que le comédien Denis Lavant lira les poèmes de Frédéric Jacques-Temple en public à la médiathèque Centrale Émile Zola. Voilà un moment qui promet d'être savoureux. Nous avons enchaîné avec la diffusion d'une chanson corse, Brindisi, interprétée par Angula Potentini et enregistrée le 4 mars 2005 par Guillaume Veillé, journaliste et directeur artistique d'une anthologie de pas moins de 10 CD de musique traditionnelle de France, parue fin 2009 aux éditions Frémaux et Associés. Pour cette partie musicale de notre émission Au rendez-vous de midi, nous l'avons joint par téléphone pour qu'il nous explique comment est née et a pu être réalisée cette impressionnante anthologie. Guillaume Veillet, bonjour, merci pour cet entretien. Vous avez réalisé une anthologie des musiques traditionnelles en France. C'est une anthologie assez impressionnante puisqu'il y a pas moins de 10 CD. C'est un gros, gros travail, j'imagine. Comment avez-vous réalisé ce projet et fait cette sélection?
Il faut voir ce projet avant tout comme une vitrine du formidable travail qui a été fait depuis plus de 100 ans maintenant pour recueillir le savoir populaire en matière de musique, en matière de chansons, toutes les enquêtes qui ont été faites sur le terrain auprès de personnes qui avaient un répertoire de chansons, par exemple, qu'ils interprétaient dans un cadre familial ou communautaire, pas du tout des musiciens ou chanteurs professionnels, bien sûr. Aussi tous ces musiciens qui jouaient autrefois dans les bals du monde rural, qui peuvent aujourd'hui encore se produire dans un cadre communautaire. Ça fait donc depuis 1900 hein, qu'on a des enregistrements, qui évidemment sont beaucoup plus nombreux dans la seconde partie du XXe siècle, mais l'idée c'était de montrer un peu toutes ces démarches, certaines associatives, d'autres très universitaires, qui ont conduit au gravage dans la cire, l'enregistrement sur une bande magnétique, sur un mini-disque, de tous ces artistes qu'on connaîtrait pas sinon, parce qu'ils n'avaient une activité que dans un cercle réduit, chez eux, dans leur communauté. J'ai donc fait appel à tous les détenteurs d'archives sonores en France, et il y en a vraiment beaucoup, en tout cas d'archives sonores dans ce domaine. L'anthologie a une cinquantaine de partenaires, que ce soit des partenaires nationaux, comme la Bibliothèque nationale, comme l'INA, comme l'ancien musée des arts et traditions populaires, qui va bientôt s'installer à Marseille, sous le nom de MUSEM, un musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée, qui a une très très ancienne et importante phonothèque. Il y a les centres de musique traditionnelle en région, il y a des associations qui peuvent avoir une petite ou une moyenne taille, mais qui ont pu faire des enquêtes de terrain. Il y a des partenaires étrangers, comme l'Université Laval à Québec, comme le Centre d'études acadiennes, puisqu'il y a un disque consacré aux francophones d'Amérique du Nord. Comment le travail de sélection a été fait? Ça a duré plusieurs années, en fait, entre le moment où mes partenaires m'ont accueilli, m'ont fait entendre plein de choses. J'ai pu déjà faire une présélection. Après, pour des raisons éditoriales, il a fallu choisir, ce qui est une démarche personnelle, mais avec l'aide de plein de gens, puisque l'anthologie, c'est aussi un travail collectif. En tout cas, le résultat final, il ne se veut pas exhaustif. Il ne s'agit pas de démontrer que les 300 enregistrements présents sont les 300 les plus intéressants et ceux qu'il fallait absolument mettre. On aurait très bien pu en mettre 300 autres, en fait, parce qu'il y a plein de trésors qui sommeillent dans les archives. L'idée, c'était d'être le plus représentatif possible, c'est-à-dire d'avoir un panorama quand même assez complet, même si, comme je dis, il ne sera jamais exhaustif. Mais en faisant forcément des choix. Il y a plein de collecteurs qui ont fait un grand travail de terrain, qui ne sont pas présents. Il y a plein d'interprètes formidables dont on a recueilli le savoir sur bande magnétique, etc., qui ne sont pas présents. J'assume les choix, mais ça aurait pu en être d'autres.
Oui, donc on fait un tour de France et même un peu plus loin, puisqu'il y a des enregistrements qui viennent aussi d'Amérique et des Antilles. Et on a notamment un morceau Congo enregistré avec une cornemuse landaise que nous allons écouter juste après. C'est un enregistrement assez particulier. Vous pouvez nous le présenter?
Oui, cet enregistrement est un incunable, comme on dit, puisque c'est le seul dont on dispose d'un joueur de cornemuse landaise qu'on appelle Bou, là, ça s'écrit B-O-H-A. Seul enregistrement d'un interprète de tradition. Qui a joué dans un cadre communautaire avant la Seconde Guerre mondiale, s'appelait Gentil Banquet. Et ce monsieur Banquet a fait partie d'un groupe folklorique dans les années 30. Ce groupe folklorique a enregistré 1,78 tours. Donc on peut entendre le son de son instrument et sa technique de jeu sur ce seul 78 tours qu'on connaisse. Aujourd'hui, la cornemuse landaise a connu un revival. Il y a beaucoup de gens qui la jouent, beaucoup de gens qui la fabriquent. Mais la seule trace sonore de sa pratique ancienne, c'est celle-ci.
Premier enregistrement que nous avons entendu, qui est donc issu de la Corse, c'est un enregistrement que vous-même avez réalisé. Vous êtes aussi, donc, vous êtes journaliste, mais pas seulement, vous êtes aussi ethnomusicologue?
Oui, mes enquêtes sont principalement centrées sur la Savoie, qui est ma région d'origine, où là, ça fait plusieurs années, effectivement, que que j'enregistre à tour de bras, que je rencontre beaucoup de gens. Là, cet enregistrement, il a été fait pour les besoins de l'anthologie. Effectivement, j'ai été amené à rencontrer la confrérie de patrimonie dans le nord de la Corse, que j'ai enregistré spécialement pour le disque Corse. Et à cette occasion, il y avait là Angela Potentini, qui est peut-être une des plus jeunes interprètes de l'anthologie, qui est aujourd'hui une chanteuse professionnelle, bien connue en Corse, mais qui a des chansons de famille, notamment celle-ci qu'elle tenait de son père, donc Angela qui va avoir une trentaine d'années aujourd'hui, interprète ce chant Brindisi, que nous prononçons Brindisi en Corse, qui est en fait un toast aux époux, hein, ce qu'on leur chante pour leur porter chance le jour de leur mariage.
Très bien, ben merci Guillaume Veillet, bravo pour ce formidable travail que je vous invite à découvrir chez les éditions Frémaux et Associés. Et donc nous écoutons tout de suite ce morceau Congo. Enchaînons avec la troisième partie de cette émission où vous sera présenté le magazine du Maghreb en Europe, Le Courrier de l'Atlas, grâce à un entretien enregistré dans les locaux de la revue La Pensée de Midi. Un entretien mené par Gilles Suzanne avec Nadia Benjilali, l'une des responsables de ce magazine.
Donc bonjour Nadia Benjilali, on est content de vous recevoir aujourd'hui pour parler du Courrier de l'Atlas, qui est une revue d'actualité. Qui a maintenant 3 ans d'âge. Je vais peut-être vous laisser, et ce sera le plus simple et le plus intéressant, vous en parler de son historique, de son histoire, et nous dire peut-être comment elle est née, quand, et avec quelles intentions journalistiques ou autres.
Bonjour, donc effectivement le Courrier de l'Atlas, qui est le magazine de l'actualité du Maghreb en Europe, a été créé en février 2007. L'idée était d'apporter de l'information et aussi quelques clés de réflexion, de compréhension dans le débat sur des thématiques et sur des thématiques qui ont attrait à ce qui se passe entre les deux rives de la Méditerranée. L'idée était de créer un journal qui faisait partie du paysage de la presse française et pas du tout de créer un journal spécifique, à vocation, soit communautaire, soit de créer un magazine maghrébin. L'idée, c'était de se dire, finalement, dans cette presse française, qui est avec de nombreux titres, il n'y avait pas, à l'époque, en février 2007, il n'y avait pas de journal généraliste qui était un newsmag qui abordait cette thématique. Donc l'entrée éditoriale, c'est celle-ci.
Peut-être que vous pourriez maintenant nous parler de son contenu, c'est-à-dire voir comment, à travers des rubriques dont on peut voir un peu le caractère éclectique, hein, il y a des dossiers, il est question de société, d'économie, de politique, parfois de religion. Dans un numéro précédent, on avait vu cette rubrique apparaître. Comment, à travers ces rubriques, précisément, il vient nourrir ce débat à partir duquel vous souhaitiez positionner le journal?
Donc ce Courrier de la Tasse, qui est donc le magazine de l'actualité du Maghreb en Europe, se souhaite, au travers d'une centaine de pages, chaque mois, nourrir un débat en abordant les choses au travers de 7 grandes rubriques. Donc chaque mois, nous abordons les choses au travers d'une première rubrique qui se trouve être autour des news. Donc les news, c'est quoi? C'est d'abord un certain nombre de brèves sur l'actualité dans les trois pays du Maghreb, l'actualité en lien avec ce qu'il se passe en Europe et en particulier en France. C'est aussi regarder ce qu'il y a eu à la télé et dans les médias. Nous avons comme ça une rubrique qui s'appelle le zapping, où nous posons, comme son nom l'indique, le regard sur une actualité télévisuelle. On a une tribune chaque mois, on a également des opinions, que ce soit un édito, que ce soit des opinions de membres de la rédaction du Courrier de l'Atlas. On aborde également des brèves. On a ensuite un dossier en couverture. Le principe du dossier de couverture, c'est la plupart du temps de construire autour d'un sujet qui est soit en lien avec l'actualité, soit un sujet fort sur lequel on souhaite mettre un point d'orgue en termes de réflexion. Vous avez dit qu'il y avait eu, par exemple, dans un des numéros précédents, un sujet autour de la religion. Dans un numéro précédent, nous avons fait comme dossier de couverture les islams en Europe. Le numéro qui est le numéro en cours au mois de juin aborde la question de travailler au Maghreb. Une rubrique économie et politique permet d'aborder des avis d'experts, des reportages, une rubrique immobilière au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Des sujets de société sont abordés. On aborde également une cinquième rubrique qui est autour des idées, des points de religion. Une rubrique qui est très attendue aussi par notre lectorat tourne autour du sport. Et enfin, une rubrique qui va intéresser, je pense, particulièrement les lecteurs de La Pensée de Midi et les auditeurs de Radio Grenouille, tourne autour de la culture et des loisirs. Donc autour de la culture et des loisirs, nous souhaitons mettre en avant l'actualité dans la mode, dans la cuisine, dans le cinéma, les soirées, la BD. Et une dernière rubrique, notre petite dernière, qui s'appelle le choufing. Le chouf, en arabe, veut dire regarder. Donc c'est qu'est-ce qu'on regarde en ce moment, ou qu'est-ce que sont les dernières choses que l'on voit.
Alors peut-être que vous pourriez nous dire, justement, pour revenir à ce point de vue singulier, qui pourrait être celui du Courrier de l'Atlas, comment, à travers ces différentes rubriques, précisément, s'affirme ce que vous annonciez tout à l'heure, c'est-à-dire un point de vue qui est d'abord, et après je vous poserai peut-être une autre question à ce sujet, un point de vue qui serait entre l'Europe et le Maghreb, en l'occurrence, en tout cas entre rive nord et rive sud, pour le dire comme ça, de la Méditerranée.
Alors peut-être ce qu'on peut dire, c'est que notre point de vue singulier, il est dans une manière de faire du journalisme qui serait non pas de dire que tout ce que l'on montre ou tout ce que l'on met en avant is beautiful, on n'a pas de solidarité mécanique, on n'a pas une manière comme ça de faire porte-drapeau, mais de regarder la qualité de l'information que l'on transmet, en particulier dans le domaine culturel. On a l'intention, l'envie de mettre en avant, de valoriser, de donner une tribune dans le Courrier de l'Atlas à des points de vue, des artistes, des formes qui sont pas forcément dans les stéréotypes. Donc c'est peut-être notre point de vue singulier.
Ça veut donc dire, par exemple, pour creuser un peu plus loin sur cette idée de entre le Maghreb et l'Europe, en tout cas entre Sud et Nord, pour le dire un peu caricaturalement, que cette manière singulière de produire l'information pourrait se retrouver, par exemple, dans la manière dont vous allez recouper des points de vue récoltés, on va dire quoi, au Sud et en Europe, la manière dont vous allez solliciter, par exemple, des journalistes sur des regards croisés, un journaliste qui pourrait être marocain ou tunisien, et un journaliste qui pourrait être belge ou suisse ou français, etc.
Oui, je vous remercie, c'est tout à fait ça. C'est absolument cette manière de croiser l'information, cette manière de travailler avec une équipe de pigistes qui sont à la fois des deux côtés des rives de la Méditerranée, mais aussi à la fois ensemble pour produire de l'information en commun, mais aussi avec un parti pris, parce qu'on a un parti pris qui est de dire finalement, dans ce Courrier de l'Atlas, on va essayer de sortir du stéréotype de ce qu'on va attendre aussi comme production d'information par un tel journal et comme vision de, pour ce qui se passe en France, de grosso modo, au Courrier de l'Atlas, on n'est pas tous jeunes, mecs, banlieusards. Et on ne parle pas que des jeunes, mecs, banlieusards. On a l'espoir de produire quelque chose intellectuellement et en termes d'information qui ne soit pas ni dans le stéréotype de la presse française, ni dans le stéréotype de la presse maghrébine, qui soit à la jonction ou dans la richesse de ces deux-là, qui en tire le meilleur. La personne qui fait la tribune au Courrier de l'Atlas, c'est un journaliste qui travaille au Maroc, donc Monsieur Refaïf, qui chaque mois, à partir de sa lecture de l'actualité au Maroc, mais aussi de ce qu'il regarde en Europe, bien, interroge ça au travers de sa chronique mensuelle.
Puisqu'on touchait en quelque sorte au lectorat, on va dire, ou à l'attente, aux attentes que peut dégager la revue du point de vue de son lectorat, précisément, cette revue, elle a été inventée, et peut-être qu'elle continue à s'inventer, à travers quel lectorat, avec l'envie de toucher qui ?
Alors, la revue a été inventée autour de deux chiffres. En fait, on avait analysé la situation en se disant, finalement, on a un paysage en France de la presse qui est super saturée. La presse française, aujourd'hui, c'est à peu près 5000 titres. Donc, comment faire un nouveau magazine au milieu de ça ? Le Courrier de l'Atlas est forcément un produit de niche, mais un produit de niche qui va s'appuyer sur un potentiel lectorat. Alors, notre potentiel lectorat, c'est 3 200 000 personnes originaires du Maghreb qui vivent aujourd'hui en France. Mais c'est aussi une deuxième génération issue de l'immigration qui est majoritaire avec plus de 51% de personnes qui cherchent aujourd'hui son journal. Donc c'est sur ces bases-là qu'on a construit l'idée de fonder le Courrier de l'Atlas. Maintenant, au milieu des 5000 titres, au milieu de 1500 mensuels, c'est pas si simple que ça de se placer avec des points de vente qui sont hyper saturés, asphyxiés par de la presse. Donc le Courrier de l'Atlas aujourd'hui, c'est 3 lectorats principalement. Alors on a un lectorat très fidèle qui est un lectorat de personnes issues de l'immigration. On a un deuxième lectorat qui est un lectorat d'amis du Maghreb, d'amis de la Méditerranée, hein, au sens large, qui sont des gens qui se questionnent, s'intéressent, vivent avec cette Méditerranée, vivent dans cette Méditerranée, des Méditerranéens. Et puis, on a un lectorat plutôt d'universitaires, de politiques, qui avaient envie d'entendre ce point de vue dont on parlait tout à l'heure, ce point de vue singulier. On a un lectorat d'abonnés de manière très importante. Et le Courrier de l'Atlas est présent sur l'ensemble du territoire français, puisqu'il y a 30 000 points de vente qui vendent de la presse en France. Et le Courrier de l'Atlas est vendu sur 1 point sur 4 aujourd'hui. Gros lectorat, un bon lectorat. Je pourrais avoir honte de dire que si la presse va mal, le Courrier de l'Atlas porte plutôt bien, puisque nous sommes plutôt en phase de lancement, donc on gagne plutôt des lecteurs chaque mois. Mais c'est une réalité. En même temps, on n'a pas 3 millions d'œufs de lecteurs. Tout à fait dommage, mais on espère qu'avec Marseille, on va en développer pas mal.
Je crois qu'il y avait quelque chose aussi de plutôt intéressant, c'est-à-dire la manière dont aussi le Courrier de l'Atlas sortait en quelque sorte de ses propres murs, de son propre support, c'est-à-dire de son support papier, puisqu'on discutait avant de commencer cette interview de la manière dont il était diffusé en papier, sous sa version papier, on va dire, principalement en Tunisie, au Maroc et en Belgique, ainsi qu'en France, on vient de le dire. Mais au-delà de ce support papier, le Courrier de l'Atlas aussi vit à travers l'Internet et de manière plus originale encore, vous me l'appreniez avant qu'on commence, sur un support audio. Vous pourriez peut-être nous dire 2 mots de ça, parce que je pense que c'est une manière aussi d'inventer du lectorat ou de le renouveler, de le diversifier.
Très rapidement, des lecteurs du monde entier nous ont dit, dans certains pays, on a plus de mal à accéder à la presse et commander de la presse et l'avoir en livraison, c'est très compliqué. Donc on a évidemment créé une version numérique assez rapidement. Et puis on a eu aussi des demandes de personnes malentendantes, mais aussi d'associations qui reçoivent des personnes qui sont aujourd'hui âgées, ce qu'on appelle traditionnellement les chibénis du Maghreb, qui sont intéressées par le Courrier de l'Atlas. et aussi un lectorat de personnes qui sont prises par leurs activités, mais qui sont tout à fait prêtes à écouter et à suivre le courrier de l'Atlas au travers de leurs activités. Donc on a créé cette formule, qui est une formule audio qui sort chaque mois, où on a une version d'une heure et demie du courrier de l'Atlas à écouter en permanence à sa volonté.
Peut-être qu'à présent, on pourrait parler plus précisément de cette intention, de cette envie, désir de venir éditer à partir de Marseille un supplément, un cahier du courrier de l'Atlas sur Marseille. Alors peut-être plus précisément à partir de Marseille, comme je le disais, que sur Marseille. Peut-être que vous pourriez nous en dire plus sur la manière dont vous allez travailler ici. Et peut-être avant ça même, pourquoi Marseille ? Est-ce que vous avez fait ça aussi sur d'autres villes ? Et si c'est le cas, lesquelles ? Et sinon, pourquoi Marseille ? Et voilà, et comment vous allez travailler à la production de ce cahier ?
L'idée de Marseille est venue au travers de deux choses. Pour nous, le courrier de l'Atlas, c'est le journal qui travaille sur l'entre-deux rives de la Méditerranée. Évidemment, à partir de la France, quelle était la ville pour nous, qui était naturellement celle qui représentait le plus la Méditerranée, ou qui était la plus emblématique de ça, c'était Marseille. Donc ça, c'est le premier élément, c'est la symbolique de Marseille. Marseille vers l'ailleurs, Marseille vers le Maghreb. Le deuxième aspect est celui que j'ai abordé tout à l'heure autour de notre lectorat. Donc on a des demandes de notre lectorat et des demandes sont arrivées principalement depuis la ville de Marseille. Donc à partir de là, des lecteurs nous disaient « c'est bien, vous avez un journal national qui aborde des choses internationales, mais on aimerait bien aussi avoir plus d'informations sur ce qu'il y a depuis notre ville ». Donc ce sont ces deux éléments conjoints qui nous ont amenés à imaginer un supplément à partir de Marseille. Il n'existe pas encore d'autres suppléments au courrier de l'Atlas, mais si l'expérience s'avère intéressante pour le territoire et pour le courrier de l'Atlas, on peut imaginer qu'elle sera multipliée dans d'autres endroits. On a eu également d'autres demandes depuis Bruxelles. On y a répondu en créant un agenda spécifique, un agenda culturel sur cette ville. Alors la manière dont on imagine les choses, je crois qu'elle est très proche de la manière dont vous travaillez à la Pensée de Midi. C'est-à-dire qu'on imagine bien faire du courrier de l'Atlas de Marseille vers l'ailleurs. C'est-à-dire que c'est en étant sur place que l'on va pouvoir alimenter ce cahier, qui donc est un supplément, qui sera un cahier inséré dans le magazine Le Courrier de l'Atlas, un cahier de 8 pages, dont le premier numéro sera diffusé à partir du numéro de juillet-août. Donc un supplément de 8 pages. Ce supplément sera l'occasion de mettre en avant des actualités locales, des productions qui vont de Marseille vers l'ailleurs. Du reste, certaines informations qui seront traitées dans le supplément marseillais seront relayées dans le journal national. On tient vraiment à ce qu'il y ait ce travail d'aller-retour entre les deux, le support général et le cahier supplément marseillais. Ensuite, la manière dont il va vivre, eh bien, nous allons le faire vivre en fonction de ce qu'on va découvrir sur le territoire, parce qu'on souhaite vraiment qu'il soit un outil à disposition ici de ce débat. Pour nous, toutes les vérités sont bonnes à dire, du moment qu'on les met en débat et du moment qu'on les argumente. Je crois que c'est vraiment notre positionnement. Il sera à Paris comme il est quand on est à Casablanca, comme il est quand on est à Lyon et comme il sera à Marseille. Vraiment, ça c'est important.
Eh bien, Nadia Benjelali, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir accordé cet entretien et puis à conseiller aux auditeurs de Radio Grenouille et puis de notre émission d'aller lire le courrier de l'Atlas. Hein. C'est aussi un plaisir de lire sa version papier, bien évidemment, parce que je la trouve bien organisée. Elle est remplie de pas mal de reportages photos aussi. Bon voilà, j'imagine qu'on peut se la procurer assez facilement dans Marseille. Et puis voilà, et sinon, bien évidemment, aller lire tout ce qui se passe sur audio, sur support audio et sur support internet.
« cette émission touche à sa fin. Vous avez pu entendre dans un premier temps un entretien avec Frédéric Jacques Temple mené par Elisabeth Sestor, puis dans un deuxième temps une présentation de l'anthologie des musiques traditionnelles par Guillaume Veillé, et enfin, troisième temps et dernier temps, un entretien avec Nadia Benjilali, une des responsables du magazine Le Courrier de l'Atlas, présenté et mené par Gilles Suzanne. Merci pour votre écoute et passez un bel été.